18h pile, c'est fantastique, vous êtes en direct pour, sur Syllab pour Surécoute, hein, votre émission d'actualité locale. Alors je suis avec Pauline.
Bonsoir.
Bonsoir. Et ce soir, donc, on va parler d'art du chic avec le festival Aïroupe qui a lieu jusqu'au samedi 1er avril à Rennes. Aïroupe, hein, d'ailleurs, c'est l'onomatopée scandée par les monteurs du cirque quand ils montent un chapiteau, si jamais vous vous posiez la question, comme moi. Mais ne vous inquiétez pas, vous en saurez plus en début d'émission. Ensuite, Romain nous parlera de Plaire, abécédaire de la séduction, un spectacle de Jérôme Rouget que vous pourrez retrouver lors du festival Mythos. Et en fin d'émission, on vous parlera des élections étudiantes. Hein. On a reçu pendant une semaine les différentes listes qui se présentaient pour les conseils centraux à Rennes 2. Et ce soir, on fait une petite piqûre de rappel sur comment voter, mais on commence tout de suite avec le Flash Info.
Au sommaire du Flash Info ce soir, le TMB accueille en ce moment une tragédie sociale palpitante. Couple torturé près de Rennes, le procès d'assises s'ouvre ce mardi et enfin le Columbia, après un an de travaux, dévoile son nouveau look.
Tragédie sociale palpitante au TNB.
Jusqu'à samedi, le Théâtre National de Bretagne propose Vue du pont d'Arthur Millier dans une mise en scène signée Ivo Van Hove. Le texte nous entraîne dans la gorge de New York dans les années 50, à deux pas du pont de Brooklyn. La mise en scène est-elle épurée avec un ring autour duquel le public est assis? Sans accessoires, tout le spectacle se fait autour des acteurs, de quoi rendre la prestation très intense. L'intrigue, elle, traite de l'immigration et du rêve américain, de désir, de trahison, jusqu'à un dénouement terrible, sanglant. Vous pourrez rencontrer l'équipe de ce beau spectacle, un des meilleurs de la saison du TMB, jeudi à l'issue de la représentation de 1h50.
4 jours de procès pour deux hommes et une femme à Rennes.
Devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine comparaissent en effet deux hommes et une femme pendant 4 jours. Les deux hommes de 32 et 24 ans sont accusés d'actes de torture et de barbarie envers un couple de retraités ferrailleurs. La jeune femme de 24 ans, elle, répond de recel et de vol. Les faits remontent à la nuit du 1er au 2 mai 2014. Deux retraités âgés de 83 et 73 ans sont réveillés en pleine nuit, une torche braquée en leur direction dans leur longère située à 1 km de la chapelle chaussée au nord de Rennes. Les trois hommes sont encagoulés et gantés, s'en suivent torture et vol. Ce sont les voisins alertés par les bruits qui ont fait fuir les malfaiteurs. Dans 4 jours, nous connaîtrons l'issue du procès.
30 ans après son ouverture, le Columbien change de look.
Les centres commerciaux rennais se modernisent. Après la rénovation du centre Alma achevée fin 2013 et celle en cours de Grand Quartier, c'est au tour de Columbia de dévoiler son nouveau look. Inauguré ce mardi soir après un an de travaux, le centre commercial s'est offert une cure de jeunesse avec un effort porté sur la luminosité et l'éclairage des lieux. Avec ses 70 boutiques, le centre Columbia accueille chaque année 8,5 millions de visiteurs et serait le centre commercial le plus visité de Bretagne. Selon Flore Audine, directrice du Columbia, le centre n'avait pas connu de travaux majeurs depuis son ouverture en 86. Le centre avait un peu vieilli pendant que la concurrence se modernisait. C'était important de rénover pour répondre aux standards des centres commerciaux actuels.
Depuis la semaine dernière, l'art du cirque a investi la ville de Rennes. Hein. C'est bien le festival Aïroupe dont on parle, qui présente jusqu'à samedi sa nouvelle édition. Aïroupe, c'est un soutien et un accompagnement d'artistes de cirque, des actions artistiques et culturelles, et évidemment ce festival. Alors on est ce soir avec Clémence, chargée de la coordination du festival. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors déjà, pour commencer, on pourrait parler de cette notion d'art du cirque, puisque Ce n'est pas du cirque traditionnel comme on peut le connaître avec les compagnies qui viennent se présenter parfois dans les villes. C'est beaucoup plus particulier que ça.
Oui, c'est ça. En fait, il y a vraiment eu un renouveau des arts du cirque. On n'est plus du tout sur une notion de traditionnel, de cirque traditionnel comme la plupart des gens pensent quand ils voient un chapiteau. Là, on est vraiment sur des spectacles qui mélangent plusieurs arts comme le théâtre, la musique, la danse. On est aussi sur des artistes qui font des écoles. En fait, il n'y a plus de tradition familiale qu'on peut avoir dans le cirque traditionnel. Et il n'y a plus d'animaux, non plus de ménagerie, voilà. comme on peut avoir dans les cirques traditionnels.
Et d'ailleurs, il y a une représentation dont on parlait tout à l'heure qui représente assez bien cette notion. C'est Diktat qui est représenté à Bru.
C'est ça. Donc Diktat qui sera présenté au Grand Logis donc, les 30 et 31 à 20h30. Donc là, on est vraiment sur un solo. Donc Sandrine Jugler qui est à la base fait du machinois. Là, nous présente vraiment un spectacle à la limite de la performance, du cirque et du théâtre corporel. Donc voilà, c'est vraiment jubilatoire, explosif. Je vous conseille vraiment vivement d'y aller parce que c'est très très chouette.
Et d'ailleurs, sur votre site internet, quand on cherche des informations sur le festival, on voit que vous parlez justement de spectacles assez innovants dans le milieu du cirque. Vous faites notamment de l'accompagnement. Comment vous sélectionnez les projets?
Donc du coup, au niveau de l'accompagnement, donc, c'est vraiment le premier volet qu'on a développé en 2005, donc le volet cirque en création. C'est des rencontres, en fait, généralement, qui se font entre les artistes et du coup... quand le travail artistique nous plaît et que les personnes aussi sont très chouettes, on décide ou pas d'accompagner. En général, c'est des accompagnements sur le long terme, donc voilà.
Et vous êtes aussi une scène de territoire pour les arts de la piste. C'est le DRAC qui vous a donné ce statut, si on peut dire, l'année dernière, en 2016. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, du coup, on a eu un label donc, de la DRAC, on est très contents. Du coup, en fait, on mène des actions sur le territoire. Donc ça, c'est plutôt le deuxième volet de notre association qui s'appelle Cirque et Territoire, comme son nom l'indique. Et donc là, on va vraiment mener en fait, des parcours artistiques et culturels avec différentes structures. Donc que ça soit scolaire, médico-social, avec la justice. Enfin voilà, du coup, on va en fait faire des ateliers de pratique ou de sensibilisation aux arts du cirque. Et ensuite, il y a des sorties qui peuvent être organisées. Voilà. On a aussi tout un volet de résidence qu'on organise au Théâtre du Saint-Étienne, notamment donc de mai à septembre. Donc là, plusieurs compagnies vont venir créer, plusieurs compagnies qui seront à différents stades en fait, de leur création. Vont venir en fait dans le théâtre, soit pour travailler au plateau, soit pour écrire. Et pour nous, c'est aussi l'occasion de convier en fait du public pour qu'ils comprennent vraiment le processus de création, comment ça fonctionne, etc.
Et c'est déjà un lieu que vous avez investi, notamment dans votre programmation actuelle.
C'est ça. Ben là, on était en plein montage en fait pendant le festival. Donc là, je pense qu'à l'heure qu'il est, il est 18h, dans une demi-heure, le premier spectacle au Théâtre du Saint-Étienne commence. Donc le spectacle All the Fun, qui est un spectacle de jonglage d'une compagnie belge complètement délurée qui s'appelle EAEO. Ça va vraiment être le QG là, du festival pour cette édition. Avec plein de surprises, donc le spectacle All the Fun qui va jouer aujourd'hui, demain et après-demain. Et après, on aura le spectacle Transgression de Ludor Citric. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Ludor Citric, c'est un clown assez, assez trash là, qui en fait, va nous parler de la société de consommation avec une poubelle. Enfin voilà, c'est un truc assez... ça bouscule, quoi. C'est sympa.
Et justement, on peut peut-être toucher un mot sur les compagnies que vous accueillez, parce qu'elles viennent vraiment... Là, on avait une compagnie belge, on voit que c'est aussi, ça vient de l'international.
Oui, c'est ça. Les compagnies, elles viennent de partout, de France et d'Europe. Là, on a par exemple aussi la compagnie Barreau d'Evel, qui est en ce moment sur l'esplanade Charles de Gaulle, qui est une compagnie vraiment franco-catalane. Voilà. Après, il faut savoir aussi que dans le cirque, en fait, les artistes, même si les compagnies sont françaises, les artistes peuvent venir de partout. Enfin, voilà, c'est assez multiculturel comme discipline.
Et justement, en parlant de cette dernière compagnie et de lieu, hein, puisque c'est l'esplanade Charles de Gaulle, bon, on a beaucoup fait parler d'elle à cause de dimanche dernier, mais au-delà de ça, du coup, c'est Barreau d'Evel Cirque, donc compagnie franco-catalane, et elle présente Bestias. Alors, malheureusement, c'est complet, oui. Mais on peut peut-être en parler, parce que c'était un des grands rendez-vous de cette édition.
Oui, c'est ça, c'était vraiment le spectacle événement de l'édition, 9 représentations sous chapiteau. Donc, c'est une compagnie qui est assez renommée dans les arts, enfin, dans le cirque contemporain, qui travaille vraiment sur l'animation. Donc, dans le spectacle Bestias, on a des animaux, donc des chevaux et des oiseaux. Voilà, juste préciser que du coup, la compagnie travaille vraiment en liberté avec ses animaux et les considère vraiment comme des artistes. Et c'est vraiment super beau spectacle, poétique. Voilà.
Donc ça, c'est un spectacle à partir de 7 ans, parce que vous adressez aussi aux enfants, notamment avec une belle après-midi en perspective demain, oui, au Théâtre de la Parcheminerie. Et donc c'est le Circus Kids, pardon, dès 15h. Donc,
c'est ça. Donc en fait, la Circus Kids, c'est un temps en après-midi plutôt pour les enfants, où on va diffuser des courts-métrages donc, qui s'appellent le Cirque Bonheur. Donc c'est vraiment des courts-métrages en pâte à modeler autour du cirque. Et après, on propose aux enfants et aux familles de prendre un petit goûter au Théâtre de la Parcheminerie, voilà. Et après, on enchaînera avec le spectacle stoïque aussi de la compagnie Légumes, où là, on est plutôt sur un duo burlesque acrobatique. Mais ça aussi, c'est plutôt complet.
Et d'ailleurs, demain, il me semble, on aura l'occasion de rencontrer les artistes de ce spectacle.
Oui, c'est ça. Il y a une rencontre.
Et donc, vous adressez aux enfants, voilà, là, notamment l'après-midi, ça sera dès 4 ans, donc vous, oui, les sensibilisez dès le plus jeune âge au cirque contemporain.
Oui, c'est ça. Alors après, bon, c'est vrai que dans le cadre du festival, on n'a pas tant de spectacles justement qui sont accessibles aux très petits enfants, comme à partir de 4 ans. En général, c'est surtout à partir de 7 ans. Mais ouais, voilà.
Et justement, alors vous faites... un spectacle pour les, ouais, enfants demain après-midi. Est-ce qu'il y en a aussi qui sont réservés aux classes scolaires
Oui, alors demain, du coup, ce n'est pas un spectacle, c'est vraiment des courts-métrages autour du cirque. Et là, par exemple, on a eu le spectacle stoïque, ça joue à 14h30, et on a Du coup, dans notre travail de sensibilisation, on a fait venir trois classes, des CP et une classe de quatrième. Donc voilà.
Et alors, un autre événement qui cette fois-ci est dans le quartier Villejean. Donc oui. Comme ça, on peut voir que vraiment vous investissez toute la ville. Donc ces monuments organisés par le collectif Protocole, un collectif de jongleurs.
C'est ça. Donc en fait, vu que nous, nos bureaux sont juste à côté du campus, on travaille sur le quartier depuis 2013, depuis qu'on y est. Et là, cette année, on avait envie de travailler autour du jonglage. Donc le collectif Protocole qui arrive ce soir sera présent sur le quartier du 29 au 1er. Donc les trois premiers jours, vraiment des impromptus jonglés. Ils vont se balader en pick-up. Ils vont faire un petit tour d'ailleurs sur le campus. Et en fait, le 1er avril, il y a vraiment le spectacle monument à 20h30 au niveau du site Kennedy. Donc ça va jouer dans la cour de nos locaux. Et pour ce spectacle, on recherche encore des participants, parce que tout le monde peut participer en fait. Et il y a un atelier demain qui aura lieu à la maison de quartier, de 18h30 à 21h30, où en fait, il y aura vraiment du collectage de paroles sur le quartier et un travail autour du mouvement pour ensuite participer au spectacle du 1er avril. Donc voilà, il reste de la place si vous souhaitez.
Elle sera sous quelle forme cette participation? Faut savoir jongler?
Non, pas du tout. Il n'y a pas du tout besoin de prérequis. On est vraiment sur un travail autour du mouvement. Enfin voilà, il n'y a pas de prérequis à avoir. Pas besoin de savoir jongler. C'est ouvert à tous, enfants, adultes, voilà.
Donc voilà, vous voyez que si vous avez raté le festival qui a commencé le 17 mars dernier, il vous reste encore beaucoup de choses à voir, notamment samedi 1er avril qui sera la clôture. Donc oui. Trois gros événements puisqu'il y a la clôture au Théâtre du Vieux-Saint-Etienne.
C'est ça.
Et il y a aussi deux autres spectacles, du coup All the Fun et Monument.
Oui, donc on fait vraiment une clôture l'après-midi, enfin toute la journée au Théâtre du Vieux-Saint-Etienne où on est vraiment plus sur des temps de pratique avec des ateliers de jonglage et de slackline le matin, l'après-midi... Pareil, vous pourrez passer aussi pour essayer ce que slackline et jonglage. On aura aussi des projections et la piscine de Diego et Michel. Donc, c'est une petite surprise au Théâtre du Saint-Etienne. Voilà. Et le soir, donc voilà, en clôture, All the Fun donc, à Saint-Gilles, au Sabot d'Or. Et le spectacle Monument à 20h30 sur le site Kennedy.
Et au Théâtre du Saint-Etienne, il me semble qu'il y a également un brunch. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par la nourriture.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un brunch donc, préparé par Miss Dom Catering, qui nous fait des super plats aussi pour les artistes et pour tout le monde. Donc voilà.
Donc le festival Aïroup hein, qui a découvert jusqu'au samedi 1er avril, vous pourrez même aller au Théâtre du Vieux-Saint-Etienne, même si vous ne connaissez pas encore le lieu, ça sera une très bonne occasion de découvrir et le cirque et cet endroit.
Ouais, c'est un super lieu en plus, c'est vraiment magnifique, donc voilà, je vous conseille.
Qu'en plus vous allez investir du coup à partir de mai 2017, puisque on peut peut-être le rappeler, la mairie vous a
attribué les résidences, ouais, les résidences au Théâtre du Vieux-Saint-Etienne de mai à septembre, donc il y aura différentes ouvertures publiques pour venir voir un petit peu le travail des artistes en cours.
Et d'ailleurs, parlant de résidence, est-ce qu'on pourra retrouver des artistes que vous accompagnez cette année?
Oui, il y en aura quelques-uns. Ouais. Par exemple, Étienne Saglio.
Qu'on a découvert aussi dans les Dimanches à Rennes.
Oui, voilà, c'est ça. Avec qui on travaille, qui sera aussi en résidence. Ouais.
Merci Clémence d'être venue parmi nous. Tu as peut-être un dernier mot à ajouter pour nos auditeurs?
Oui, mais venez découvrir les arts du cirque sur le festival Aïroup. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir.
Et on peut retrouver la programmation sur votre site internet?
Oui, c'est ça, sur festivalaïroup.com. Voilà.
Et les programmes aussi qui sont très visibles dans des nuances rouges. Il me semble qu'il y a un singe dessus.
Oui,
on devrait le reconnaître
singe
facilement.
Singe et serpent.
Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Donc le festival Aïroup pour découvrir les arts du cirque, c'est jusqu'au samedi 1er avril à Rennes. Alors là, on va inaugurer la playlist de Jeff. Hein. Il nous a gratifié d'une belle playlist encore. Moi, je lui fais confiance parce que je ne sais pas quel point. Without Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gals. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you, oh, Peggy. My Peggy Sue. Oh, well, I love you, gals. I love you. Yeah, and I need you.
said, well, I love you, gal. I want you, Peggy Sue. So rare and true, oh Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, girl, and I want you, Peggy Sue. Well, I love you, girl.
Peggy Sue, un titre de Buddy Holly qui nous donne envie de danser. Mais pour le moment, c'est pas encore vraiment l'heure de danser puisque Romain nous a préparé un petit reportage. Voilà, c'est sur la pièce Plaire, abécédaire de la séduction, à découvrir pendant le festival Mythos. On écoute ça tout de suite.
Plaire n'est pas une chose aisée. Et j'en sais quelque chose. C'est pourquoi je suis allé voir un expert. Jérôme Rouget, auteur du spectacle. Plaire, abécédaire de la séduction. Il le présentait à l'air libre. Il sera de retour pour Mythos, l'occasion d'en savoir plus sur ce personnage sulfureux. J'ai envie de dire quelques mots de ce personnage de Bruno Delaroche. Il faut le connaître, il faut le rencontrer, parce qu'il s'immisce au milieu des inaugurations très pompeuses en général. Et il arrive à représenter quelque chose pendant un long moment, ou je ne sais pas à quel moment on se rend compte que tout ça c'est de la comédie. Alors les spectacles font justement appel à vous certainement, je pense... comme un pied de nez, c'est comme ça qu'il a été pensé aussi, pour dire je vais venir m'immiscer et un peu casser tout ça.
En fait, il est né, je dirais pas par hasard, mais il était au départ au cœur du spectacle polysculturel, donc il était dans le cadre d'un spectacle. Et puis après, par contre, à une occasion par hasard, c'est-à-dire des amis qui m'avaient invité dans un cadre privé pour fêter le départ de quelqu'un qui travaillait dans le domaine de la culture, j'ai fait un discours comme ça. Et puis là, tout le monde m'a dit, ah bah dis donc, mais c'est vachement bien comme ça, hors cadre spectacle aussi. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je l'ai développé, effectivement, dans des inaugurations ou pour des présentations de saison. Et ben voilà, ça joue sur le vrai-faux, c'est-à-dire qu'effectivement, au départ, tout le monde pense que c'est un vrai personnage. En plus, maintenant, comme je l'ai beaucoup fait, les organisateurs me font confiance, donc je me retrouve régulièrement en présence de personnalités politiques assez importantes. Ça peut être des sénateurs, des préfets, des députés. Je l'ai fait avec Ségolène Royal, avec Alain Juppé, avec plein d'autres. Et donc, évidemment, quand on se retrouve sur scène avec des gens comme ça, des vrais officiels, on va dire, ça donne un crédit tout de suite à cette personne, c'est-à-dire qu'elle prend la parole, et même quand ça commence à dérailler au bout d'un moment, on doute du fait que ça déraille, puisque les gens qui sont à côté sont tout à fait sérieux, etc. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est de voir à quel point le cadre dans lequel quelqu'un s'exprime, la façon dont il est habillé, conditionne notre écoute de spectateur.
Ouais, et puis vous cassez quand même vraiment leur discours aussi. Parce que ça va quand même être assez, très, très, assez loin dans le sarcasme. Est-ce que vous avez eu des réactions, par exemple, de certaines de ces personnalités-là qui sont venues soit vous engueuler, soit au contraire vous dire « Ah, c'est génial, comment vous nous transformez en bouffons, quelque part ?»
Effectivement, il y a un sarcasme de la rhétorique politique assez important. Mais les gens, en général... le prennent plutôt bien, ou enfin je parle des personnalités politiques parce qu'au niveau du public ça se passe toujours très très bien, mais le prennent plutôt bien parce que c'est de toute façon bienvenu quand on est une personnalité politique d'avoir de l'humour. Ouais, ils sont énormément quand même habitués à être parodiés et puis je pense que finalement ils apprécient plutôt parce que eux-mêmes, je crois, se sentent un peu prisonniers de leur image et puis d'un système qui fait qu'ils se comportent d'une certaine façon qui n'est pas forcément toujours celle avec laquelle ils aimeraient fonctionner ou se comporter. C'est très surprenant, parce que maintenant, ça fait très longtemps que je le fais, donc j'ai côtoyé vraiment beaucoup de personnalités politiques, et notamment j'avais développé un autre discours de Bruno Delaroche, une autre forme, dans laquelle j'expliquais ce que c'était pour nous, personnalités politiques, de venir faire des inaugurations. Et j'avais été très surpris parce que ça avait vraiment très très bien fonctionné. Mais à la fin, il y a beaucoup de personnalités politiques qui étaient venues me remercier. Parce qu'ils avaient l'impression que tout à coup, je disais des choses qu'eux n'avaient pas le droit de dire, mais qui étaient complètement ce qu'ils vivaient, quoi. C'est-à-dire le fait de devoir se rendre à une inauguration d'un événement dont on sait absolument rien, et puis devoir en parler un peu, voilà, goûter des spécialités culinaires qu'on n'apprécie pas forcément, mais devoir dire que c'est bon, toutes ces choses-là, quoi.
Les personnalités politiques, un sacré jeu qu'on voit vraiment beaucoup en ce moment, et la séduction y est liée. Je vous demandais un petit exercice appliqué, si vous le voulez bien. On commence par un premier cas, beau, jeune, charismatique selon certains. Emmanuel Macron, est-ce qu'il a compris, lui, les codes de la séduction ?
Ouais, je pense que tous ceux qui, en ce moment, sont, on va dire... comment dire, toutes les personnalités qu'on voit régulièrement médiatiquement sont quand même un peu, sans que ça dise quoi que ce soit sur l'efficacité de ce qu'ils proposent, etc. Mais au niveau médiatique, sont quand même un peu des bêtes de scène, on va dire, quoi. Voilà, avec une façon d'utiliser la rhétorique qui peut être vue et revue, mais en tout cas qui est vraiment extrêmement affûtée, on va dire.
La rhétorique, élément central, mais alors un autre cas, François Fillon, quand on dit quelque chose et qu'on prouve son contraire, ça c'est une erreur dans la séduction, quand en quelques mois, on a prouvé qu'on ne faisait pas du tout ce qu'on avait promis. La transparence,
on le voit bien que c'est une erreur, enfin ça lui a quand même servi à être élu, mais après c'est vrai que ça ne s'est pas passé certainement comme il espérait. François Hollande, c'est un cas intéressant parce que c'est quelqu'un qui a énormément d'humour. Moi, j'ai écouté un truc sur arteradio.com qui s'appelle le Hollande Comedy Club, où ils ont regroupé toutes les répliques qu'avait fait François Hollande avant d'être président dans les discours, et c'est vraiment très très drôle. Et à partir du moment où il a été président de la République, il a complètement gommé cet aspect drôle dans ses discours, et ça, c'est parce que moi je m'intéresse beaucoup aussi à l'humour et à son utilisation. C'est assez intéressant de voir comment, à la fois l'humour maintenant, aujourd'hui, il y en a partout, et à la fois quand même comme c'est un peu dénigré, c'est-à-dire que quand on dit quelque chose avec drôlerie, bah, c'est léger, c'est pas forcément profond, etc. Alors que moi, je pense pas du tout ça, je me suis un peu éloigné du sujet.
Non, très très, très bien. Un autre cas, Benoît Hamon qui se dit pas homme providentiel en séduction, ça c'est pas terrible d'annoncer tout de suite qu'on va pas forcément changer les choses et qu'on n'est pas celui qui a toutes les clés. Il vaut mieux avoir un petit peu plus d'assurance, non ?
Oui, je pense, mais certainement Benoît Hamon dit ça parce qu'il espère justement renouveler le discours et il espère que les gens sont peut-être prêts à entendre ce genre de choses. Après, effectivement, c'est pas comme ça a priori ce qu'on conseillerait, ce qu'un coach en séduction lui conseillerait de faire, je pense.
Alors le coach en séduction pour Jean-Luc Mélenchon, qui parfois est un petit peu vociférant, parfois arrive à se retenir, il a eu un coach pour lui expliquer ce que son côté méditerranéen, comme il le défend lui-même, il fallait parfois peut-être le modérer sur certaines questions.
Ouais, je pense qu'il s'en est aperçu par lui-même ou avec son équipe, mais c'est vrai que tout le monde s'accorde à dire que c'est un excellent tribun. Et après, je pense que son côté, évidemment, qui s'emporte parfois, lui a joué pas mal de tours. Et puis, on voit bien comment sont les médias et l'opinion publique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enfermé quelqu'un dans une image, c'est extrêmement dur de s'en défaire. Et même s'il gomme ça depuis 5 ou 6 mois, ça le poursuit quand même.
Il essaye. En plus, le naturel revient souvent au galop. Le conseil de base, un conseil vraiment basique de séduction, celui qu'il faut vraiment absolument maîtriser pour ne serait-ce que commencer un apprentissage avec vous.
Ah mais moi je me sens pas du tout coach en séduction, hein. J'ai étudié différents aspects de la séduction dont je parle sur scène, et en fait il y a quelqu'un d'ailleurs en Bretagne ici qui s'appelle Nicolas Guéguen, qui est professeur à l'université à Vannes, Bretagne Sud dont je crois, et qui a donné une conférence sur la séduction que j'ai regardée, et c'est tout à fait intéressant. Et donc quand on lit comme ça plein de documents, au bout d'un moment on est complètement perdu. Et on s'aperçoit en fait que peut-être la meilleure façon, c'est d'avoir lu ces choses, les avoir digérées, et puis après, notre inconscient peut-être en tire la substantifique moelle de toutes ces choses. Mais en tout cas, je pense que c'est très dur d'adopter une méthode, on va dire, qui fonctionne comme ça sans que ça paraisse artificiel. Et heureusement, c'est aussi ce qui fait la beauté de l'affaire, je trouve.
Et alors, choisir justement de ne pas forcément séduire par la forme, ça peut être aussi quelque chose de vouloir se détourner de ces codes-là pour se concentrer sur l'idée, parce que la séduction a l'air d'être beaucoup une histoire de forme.
Ouais, la séduction, c'est sûr que capitaux, c'est quand même une histoire d'image. Déjà, le fait qu'on ait envie de parler avec quelqu'un, ça va être quand même son aspect, sans au départ peut-être sans qu'il ait même parlé, son aspect physique, ses vêtements, etc. Mais après, je pense, voilà, il y a pas de recette, quoi. Il y a des multitudes de schémas, et évidemment que les mots et puis leur substance et puis ce qu'on dit sont capitaux.
Plaire, abécédaire de la séduction, par Jérôme Rouget, à découvrir durant le festival Mythos. Avec ce spectacle, vous sortez de la linéarité d'un récit. Qu'est-ce que ça apporte pour vous et pourquoi ça vous a fait du bien, peut-être en termes de rythme, c'est quelque chose d'important?
Ouais, c'est ça. En général, les spectacles que je produis, il y a un rythme très, très intensif, on va dire, avec beaucoup de... Enfin, j'essaye, avec des surprises et des rebondissements. Et donc, j'aime pas raconter une histoire de façon linéaire, avec un début, une fin et un développement. Peut-être aussi parce que ça correspond, à mon avis, plus à notre époque, qui est un peu une époque de zapping, voilà, permanent. Et ça peut avoir des aspects négatifs, péjoratifs, c'est souvent critiqué, mais ça peut aussi avoir des aspects positifs, c'est-à-dire tenir justement le cerveau en éveil par des choses assez surprenantes. Et donc, à chaque fois, j'essaye de trouver des dispositifs comme ça qui permettent de ne pas raconter une histoire de façon linéaire. Et l'abécédaire, c'en est un bon pour produire une forme comme ça un peu fragmentaire, mais où le spectateur a quand même dans sa tête le fait qu'il y a des lettres qui vont venir et que ça constitue tout ça un abécédaire.
Ah oui, donc le fil conducteur, c'est que le spectateur s'attend à arriver jusqu'à la lettre finale. Donc il y a quand même un dispositif intéressant là. Il y a une attente, il y a un fil rouge.
Alors il y a deux fils rouges, je dirais. Il y a le fil rouge créé par l'abécédaire qui pourtant est un peu... Enfin, je ne peux pas révéler le spectacle, mais dès le début, il se passe quelque chose qui fait que ça remet en cause justement le fait qu'on produise toutes les lettres de l'abécédaire. Et puis le deuxième fil rouge du spectacle, c'est un peu la séduction du spectateur. C'est-à-dire que l'acteur, enfin donc moi en l'occurrence, se demande régulièrement qu'est-ce qu'il est venu faire ici ce soir. Est-ce qu'il est venu séduire les spectateurs? Est-ce qu'il est venu séduire une majorité de spectateurs? Est-ce qu'il est venu pour faire l'unanimité ou plutôt pour plaire intensément à une petite partie du public? Toutes ces questions-là qui interrogent, je pense, pas mal de gens qui font de la scène.
Alors tout également dans l'introduction, et je vais révéler un tout petit bout, dans la lettre A comme avertissement, vous interrogez le rôle d'un spectacle, plus largement certainement du théâtre, même de l'art je pense, se divertir, voir des formes, avoir des attentes vis-à-vis du sujet abordé, être chamboulé, oublier ses soucis, trouver une boussole, toutes ces fonctions pour vous, elles se valent?
Ah si, je pense qu'il y a des hiérarchies. Après, moi donc dans tous mes spectacles, parce qu'on est en train de parler vraiment très sérieusement, mais dans tous, enfin même si l'humour est sérieux, mais dans tous mes spectacles il y a une part d'humour très forte. Et donc peut-être ça rejoint un peu ça, c'est-à-dire que dans un spectacle on peut trouver plein de choses. Et moi ce que j'aime, c'est justement quand ça permet aussi d'avoir devant soi des gens qui sont venus avec des attentes très différentes, avec des envies très différentes, avec des références très différentes. Et par le biais justement de l'humour, on peut arriver à emmener avec nous tout un ensemble de spectateurs. Et donc peut-être que des gens y trouvent parfois d'autres choses que ce qu'ils étaient venus chercher, et c'est là que je trouve que ça devient intéressant.
Dans tous vos spectacles, et notamment Police culturelle et la forme solo que vous avez développée avec Bruno Delaroche, que j'avais pu voir moi au Chaînon manquant et qui en avait déstabilisé plus d'un, et ou d'autres spectacles comme Inoffensif ou Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie, il y a toujours quand même une dimension politique, sociétale. Pour vous, c'est vraiment très important quand même d'utiliser le spectacle et le spectre du théâtre pour défendre des causes.
Ouais, alors effectivement, il y a toujours une dimension, pour moi, politique très importante. Après, elle est plus ou moins vue des spectateurs, mais c'est justement ce que j'aime beaucoup par le biais du spectacle et puis de l'humour aussi en particulier. C'est le fait qu'on peut aborder plein de thématiques, mais de façon, je dirais, non frontale, en faisant comme ça un pas de côté, et puis en n'étant pas, comme par exemple, on le voit bien, des fois avec des gens très militants, le fait que la façon dont ils ont de dire les choses ou d'asséner les choses des fois comme des vérités peut nous inciter parfois à les rejeter un peu d'emblée alors que ce serait des choses extrêmement intéressantes. Et je trouve que par le biais du théâtre, de l'humour, on invite les gens à regarder les choses autrement sans leur dire c'est comme ça, mais essayez peut-être de faire vous aussi un pas de côté pour regarder la réalité autrement.
Avant encore d'aborder le cœur de ce spectacle et de plaire, vous avez aussi co-dirigé le festival A pendant 5 ans. Vous êtes directeur artistique du Printemps de la Martingale et du Dis Donc. On en dira quelques mots parce que c'est intéressant, lecture de théâtre sans spectateur, donc plus à l'usage des pros. Vous faites également de l'enseignement dans le même sens. Avant de détailler tout ça, comment ça s'articule tout ça? Est-ce que c'est logique et cohérent d'avoir tous ces rôles-là?
Bah ouais, je crois que c'est assez logique et cohérent, même si moi, quand même, je me sens principalement auteur de spectacle, comédien de ce que, en général, j'écris, même si je joue avec d'autres. Et c'est quand même ça, mon activité principale et ce qui me tient le plus à cœur. C'est-à-dire que je sens dans ce que j'écris qu'il y a des choses qui évoluent et puis que j'en ai encore à écrire, etc. Il y a plein de choses comme ça que j'ai envie de développer. Et après, toutes ces activités, je dirais un peu parallèles, me permettent d'enrichir cette chose qui est vraiment pour moi la primordiale. C'est-à-dire que quand je rencontre des étudiants à qui j'essaye de transmettre des choses, eux aussi, ils me transmettent plein de choses. Et puis, tout à coup, ça me permet aussi, moi qui suis souvent seul dans ma pratique, enfin du moins sur scène, ça me permet de tester des choses de façon beaucoup plus collective, voilà. Et puis après, accueillir des spectacles dans le cadre d'un festival ou le Dis Donc, etc., ça me donne aussi, parce que le Dis Donc, c'est que des textes de théâtre contemporain, et donc ça me fait aller vers d'autres formes de théâtre que je connais moins, et ça enrichit aussi ma pratique.
Le Dis Donc, justement, son rôle, c'est d'inviter les personnes qui ont écrit à le partager avec d'autres personnes pour justement des échanges très très riches. L'idée, elle est partie de là. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Qu'est-ce que les gens en ressortent?
Alors, le Dis Donc, c'est un rallye de lecture théâtrale, donc où on invite les gens à venir lire des pièces de théâtre. Et il n'y a pas de spectateurs, c'est-à-dire qu'en fait, tous les gens présents doivent lire. Donc, d'ailleurs, ça, au début, ça donnait quelques méprises, parce qu'il y a des gens qui venaient écouter une lecture, puis on leur disait, non, c'est pas une lecture à écouter, c'est une lecture où chacun participe. En fait, c'est parti du fait que parfois, les comédiens font des lectures comme ça, et donc j'étais dans un festival où j'assistais à une lecture, et c'est pas du tout la même chose de jouer que de lire. Et c'est pas parce qu'on est bon comédien qu'on est forcément bon lecteur, et je m'ennuyais un petit peu. Et je me suis dit, oh là là, si au moins j'étais avec eux en train de lire, je m'ennuierais moins. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer cette affaire. Alors ça s'adresse principalement à des... parce que ça se fait à Parthenay, dans une petite ville de 10 000 habitants, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et le fait que ça soit dans une petite ville, c'est ça qui est bien aussi, c'est parce que on pourrait s'attendre à ce que la clientèle, entre guillemets, de ce genre d'événement, ça puisse être des comédiens amateurs ou des élèves du conservatoire ou des profs ou des bibliothécaires. Et comme c'est dans une petite ville, il y a plein de gens très différents qui viennent, qui se font ça un petit peu comme un challenge, venir lire une pièce de théâtre. Et depuis, donc, 4 ans maintenant, on le fait avec les auteurs des pièces. Enfin, on essaye de faire venir des auteurs des pièces. Donc, on a eu Fabrice Melchiot, Marion Aubert, Karine Serre, enfin, plein de gens. Et lire une pièce de théâtre avec son auteur, donc on se retrouve à en général une quinzaine, on va dire. C'est une expérience quand même assez enrichissante et puis vraiment super, quoi.
Plaire, abécédaire de la séduction à découvrir pendant le festival Mythos, que Scylab va d'ailleurs couvrir, puisqu'on sera en direct du Tabor les vendredis et samedis de 17h à 18h. N'hésitez pas à passer nous voir. Et puis pour ceux qui ne pourront pas assister au festival, il y aura un journal Mythos dans Surécoute toute la semaine prochaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi à 18h en direct tous les soirs. Et avant de parler d'élection étudiante, Jeff nous a sélectionné un morceau et on écoute ça tout de suite.
Hey, good night.
Farka Touré, c'était un titre sélectionné par Jeff pour la playlist de ce soir pour votre émission Sur Écoute. Les élections étudiantes ont débuté aujourd'hui, hein, vous le savez, puisqu'on vous a parlé toute la semaine dernière, et c'est jusque demain. Alors, pour les étudiants comme Dune à la réalisation qui n'ont pas voté encore et qui n'avaient pas encore voté il y a 2 ans, puisque les élections étudiantes au Conseil Centraux, c'est tous les 2 ans, petite piqûre de rappel.
Aujourd'hui et demain, ce sont les élections étudiantes au Conseil Centraux de Rennes 2. Du coup, mardi de 9h à 16h et mercredi de 9h à 16h aussi. Pour voter, c'est très simple, il y a différentes listes et il y a 2 conseils à élire. La CFVU, Commission Formation et Vie Universitaire, qui s'occupe de tout ce qui est pédagogie, offre de formation et la vie étudiante. Et il y a un 2e conseil qui s'appelle le Conseil d'Administration et qui s'occupe de la politique de l'université, le vote de budget et toutes les questions importantes de l'université. Et il y a enfin un 3e conseil, qui ne correspond pas à tous les étudiants, qui est la commission recherche, c'est juste pour les doctorants.
Là, on est dans l'UFR de langue, on est au scrutin des élections au Conseil Centraux. Est-ce que vous nous expliquez un petit peu ce que c'est?
Ici, on vote à la fois pour le Conseil d'Administration et pour le Conseil de la vie universitaire CFVU.
Et donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui sont venus voter.
Tous les étudiants peuvent voter en présentant leur carte d'étudiant.
Alors, Dune, tu as retenu la leçon, comment on fait pour voter ?
On va demain de 9h à 16h avec ses cartes étudiantes dans l'UFR concernée.
Oui, c'est ça, c'est bien. Et du coup, tu vas aller voter.
Oui, tout à fait, demain, sans faute.
Alors nous, comme je le disais, on avait reçu les différentes listes la semaine dernière. On a eu Campus de Demain, l'UNI, l'UNEF et l'Alliance Rebelle hier. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur c-lab.fr. On a décrypté leur programme. Et du coup, n'oubliez pas d'aller voter. Et c'est sur cette petite réflexion qu'on va arrêter l'émission. Alors merci à Pauline qui était avec moi. Oui, on a Yuxek en fond. Merci à Dune pour les réalisations. Et puis, je voulais vous présenter quelqu'un, Merlin, qui est en sous-marin depuis 2 jours dans l'émission. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tu es en stage ici à SILAB et on va plus entendre ta voix jeudi parce que tu vas nous préparer une chronique. Et d'ailleurs, as-tu déjà choisi le thème ?
Ah oui, j'ai très hâte. Ça va être au sujet du voyage et de son importance.
Et le voyage que tu connais bien. Parce ça fait pas très longtemps que tu es en Bretagne.
Justement, je viens de retourner une expatriation de 9 ans en Inde.
Et on découvrira ça tout ça jeudi.
Avec plaisir.
Et demain, nous, on se retrouve avec beaucoup d'art. D'ailleurs, il sera encore avec moi, Merlin. On recevra Printemps Art et Santé, l'exposition Le Vert, objet de sciences et d'art du Master Magemi. Ce sera demain en direct à 18h sur SILAB. Et d'ici là, passez une soirée. Une bonne soirée.